Ça devrait être bon, vous m'entendez? Super. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous et je le dis sincèrement. Il y a une joie à voir qu'on est partenaire pour le progrès de l'Évangile, que ce soit à Bruxelles, à Grenoble, ailleurs en Europe francophone. C'est ce que Paul dit dans la lettre aux Philippiens. C'est l'un des thèmes, si ce n'est le thème de cette lettre qu'on va explorer un tout petit peu ensemble aujourd'hui. C'est la joie qu'il y a à être partenaire pour le progrès de l'Évangile. Alors nous, on va examiner une toute petite partie de cette lettre, c'est en Philippiens 3. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Philippiens 3. Nous allons lire à partir du verset 12 et jusqu'au chapitre 4, verset 1. Philippiens 3, à partir du verset 12 jusqu'au chapitre 4, verset 1. Et je vais juste encore demander l'aide au Seigneur. Dans la prière. Seigneur, nous te demandons ton aide. Nous avons besoin, Seigneur, que tu parles à chacun d'entre nous. Et nous supplions alors, Seigneur, que tu agisses par ton esprit, qu'il emploie la parole qui sera annoncée pour transformer nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Philippiens 3. Versets 12 et suivants. L'apôtre Paul dit: Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Je me demande quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises en ce début d'année. Nous sommes mi-février et j'ose donc espérer que les résolutions que vous avez prises au début de l'année ne sont pas encore toutes mortes et enterrées. C'est l'habitude, après les fêtes, de prendre de bonnes résolutions pour l'année qui commence, reprendre le sport, entamer un régime, passer moins de temps sur mon smartphone, lire la Bible en un an. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes résolutions que l'on peut prendre, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en tant que chrétien, une seule bonne résolution est vraiment nécessaire? Qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte vraiment dans cette nouvelle année qui commence? C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans le passage que nous avons lu en Philippiens 3, verset 13. En effet, regardez, Paul dit qu'il s'est résolu de ne faire qu'une seule chose. Mais, dit-il, verset 13, je fais une chose. Je fais une chose. D'autres versions de la Bible traduisent en disant, mais une seule chose compte vraiment. Je trouve ça plutôt amusant en pensant à l'apôtre Paul. Si vous regardez au début de cette lettre aux Philippiens, vous verrez qu'elle est adressée de la part de Paul et Timothée aux chrétiens de l'église de Philippe. Timothée était avec Paul comme son secrétaire. La plupart du temps, Paul dictait ses lettres à Timothée qui les écrivait. Et ça me fait sourire de penser à cette scène et d'imaginer le moment où Paul a dicté cette phrase. Frères et sœurs, je n'estime pas m'être encore emparé de Christ, mais je fais une chose. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Timothée a dû lever les yeux vers Paul avec un regard interrogateur. Peut-être même qu'il a eu le courage de l'arrêter et de lui dire mais enfin Paul, veux-tu vraiment que j'écrive que tu ne fais qu'une seule chose? Depuis que je te connais, tu fais toujours 1000 choses et 1000 choses à la fois. Tu voyages sans cesse, tu prêches l'évangile, tu fabriques des tentes, tu guéris des malades, tu visites, tu accompagnes, tu conseilles. Je ne t'ai jamais vu faire une seule chose. Que pensez-vous que Paul lui aurait répondu si Timothée avait osé lui faire part de son incompréhension? Je pense qu'il lui aurait dit « Tu as raison, Timothée. Personne ne sait mieux que toi combien je suis occupé, mais voilà ce que tu dois comprendre. Je ne suis pas occupé à faire plein de choses différentes. Je suis occupé à faire une chose de plein de manières différentes. Peu importe ce que je fais, à chaque heure de ma journée, dans toutes mes activités, je ne fais en réalité qu'une seule chose. Quelle est cette chose? Je cours, dit Paul. Je cours, mais je fais une chose, dit-il, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but. Paul a un but dans la vie. Et si nous avions lu l'entier de la lettre aux Philippiens ce matin, vous devriez pouvoir me dire quel est ce but, parce que Paul l'a répété encore et encore, que son but suprême, c'est quoi? C'est de connaître Christ. Voilà le but de sa vie, comme on pouvait déjà le lire au chapitre 1, verset 21, où Paul disait « Car pour moi, vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. » Et dans la première moitié du chapitre 3, Paul persiste et signe que c'est ça son but ultime. Il explique que tout ce qui avait de l'importance à ses yeux avant de connaître Christ, que ce soit son renom, sa réussite, sa réputation, toutes ces choses qui avaient tant d'importance dans sa vie, il considère qu'elles ne valent rien en comparaison du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et si vous êtes là ici ce matin pour la première fois, comme il a été dit, on est heureux que vous soyez là, mais c'est ça qu'on aimerait vous dire par-dessus tout, qu'il n'y a rien de meilleur que de connaître Jésus, parce qu'il est le seul sauveur. Il a donné sa vie pour le pardon des péchés de son peuple, et il donne la perfection de son obéissance et la paix avec Dieu à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Et c'est ce que Paul a découvert, lui qui voulait par ses bonnes œuvres se rapprocher de Dieu, il a découvert que ses bonnes œuvres ne pouvaient pas le faire, mais que Jésus le peut. Mais si dans la première moitié du chapitre 3, Paul définit ainsi le but de sa vie, c'est connaître Christ, dans la deuxième moitié du chapitre qui nous concerne aujourd'hui, Paul décrit sa poursuite active de ce but et il nous invite à le rejoindre dans cette course. Vous voyez, pour Paul, connaître Christ n'est pas un simple vœu pieux, ni une belle formule creuse. C'est ce qu'il veut vivre vraiment. Et c'est pourquoi il fait tous ses efforts pour connaître Jésus davantage. Il désire être transformé à son image chaque jour un peu plus, jusqu'au jour où il verra Jésus. Or, cette poursuite active de Jésus, Paul l'a décrit au moyen d'une image. Et cette image est laquelle ? C'est celle de la course. Et Paul nous dit 3 choses à ce sujet. Il nous dit que la vie est une course. Comment rester dans la course? Et pourquoi rester dans la course? Alors voyons ces 3 choses l'une après l'autre. Premièrement, Paul nous dit que la vie chrétienne est comparable à une course. Il suffit pour voir cela de parcourir les versets 12 à 16 qui sont dominés par le champ lexical de la course. Par 2 fois, Paul parle du prix qu'il veut remporter. Par 2 fois aussi, il dit que n'ayant pas remporté le prix, il fait une chose, il court. Je cours, dit-il, vers le but. Et le mot grec traduit ici par but est celui qui est employé ailleurs pour parler de la ligne d'arrivée. Et enfin, au chapitre 4, verset 1, regardez, Paul parle de la couronne. Une référence à la couronne faite de feuilles de laurier ou de feuilles d'olivier qu'on plaçait sur la tête du vainqueur, sur le podium. Cette image de la course est une image que Paul prend souvent dans ses lettres pour illustrer différentes facettes de la vie chrétienne. Mais c'est une image qui devait parler tout particulièrement à ces chrétiens de la ville de Philippe. Car savez-vous où se trouve Philippe ? Philippe se trouve dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Grèce. Et la Grèce était particulièrement réputée pour ses compétitions d'athlétisme. Il y avait quatre grandes compétitions qui avaient lieu tous les quatre ans, ce qui veut dire que chaque année, toute la Grèce vibrait au rythme des Jeux. Il y avait les Jeux ismiques dans le sud de la Grèce, les Jeux néméens, les Jeux pythiques et bien sûr, les plus connus de tous jusqu'à aujourd'hui, les Jeux olympiques. On est en plein dedans. Okay ? Et dans chacun de ces Jeux, la compétition phare, celle que personne ne voulait rater, s'appelait le stadion. Il n'y avait pas le marathon à l'époque, c'était le stadion. C'était une course à pied et elle était si prestigieuse que le vainqueur donnait son nom à toutes les Olympiades. Et son nom passait ainsi à la postérité. C'était la gloire et les honneurs assurés pour le vainqueur. Maintenant, si vous vouliez y participer à cette course, il fallait s'inscrire un an à l'avance. Et pendant toute une année, vous deviez suivre un entraînement très strict. Tous les participants étaient soumis aux mêmes règles. Il y avait un régime alimentaire particulier. Il y avait des tests à passer. Vous étiez préparé pour le jour J. Et le jour de la course arrivée, ce n'était plus que vous et la piste. Au moment du départ, il fallait courir, courir sans s'arrêter jusqu'à la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de doute que les chrétiens de l'église de Philippe avaient déjà assisté à de telles courses. Mais quelle est la raison pour laquelle Paul emploie cette image ? C'est que Paul veut faire un parallèle entre le monde de l'athlétisme et la vie chrétienne. Quel est ce parallèle ? C'est que de même qu'une course n'est jamais terminée tant que vous n'avez pas passé la ligne d'arrivée, à aucun moment dans cette vie, vous ne pouvez penser que vous seriez en quelque sorte arrivé dans la vie chrétienne. Paul veut nous rappeler que tout chrétien, depuis que Dieu l'a sauvé en Christ, tout chrétien est comme engagé dans une course, et tant qu'il n'est pas auprès du Seigneur, le chrétien cherche à avancer sur le chemin de la foi. Il désire progresser pas à pas dans son attachement à Dieu. Il veut le connaître mieux. Dans son commentaire sur ce passage des Philippiens, Jean Calvin l'exprime ainsi. « Il n'y a rien de plus contraire à la nature de la foi, dit-il, que de s'imaginer être arrivé. Car tant que nous vivons ici-bas, dit-il, nous sommes toujours en chemin. Aussi, ceux qui pensent avoir suffisamment progressé montre par là même qu'il n'a encore rien appris de Christ. Toute la vie du chrétien n'est autre chose qu'une course dans laquelle il faut toujours avancer, jusqu'à ce que, ayant achevé le combat, nous parvenions enfin à la pleine possession de Christ, dont nous ne faisons maintenant que goûter les prémices. » N'est-ce pas ce que Paul dit ici ? Que oui, si nous persévérons, un jour nous remporterons le prix. Oui, nous atteindrons le but. Oui, nous verrons Jésus. Mais d'ici là, nous sommes appelés à persévérer, à progresser, à poursuivre Christ sans nous lasser, sans quoi nous allons nous disqualifier. Et c'est pourquoi Paul nous incite ici à faire deux choses. Avez-vous remarqué ce qu'il dit au verset 13 ? Il nous dit d'oublier ce qui est derrière, d'une part, et de se porter vers ce qui est devant, d'autre part. C'est du moins ce que lui s'évertue à faire. Il dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, d'une part, Paul nous dit « Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. » Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège-là. Plutôt que d'évaluer l'état de leur relation avec Jésus aujourd'hui, ils cherchent à se rassurer en pensant à des choses qu'ils ont vécues parfois il y a des décennies. Je connais un homme qui a vécu une expérience de conversion dramatique. Il était addict à l'alcool. Et le jour où il a entendu parler de Jésus, il s'est, selon toute vraisemblance, converti. Et il a été délivré du jour au lendemain de son addiction. Mais pendant des années après, il n'y avait aucun signe de progrès. Pas ou peu d'intérêt pour les choses de Dieu. Mais à chaque fois que son pasteur cherchait à l'alerter sur son état, il esquivait un peu, si vous voulez, les questions en renvoyant toujours à cette même vieille histoire de conversion. Ne trouvez-vous pas que c'est un piège dans lequel il est facile de tomber ? Ne trouvez-vous pas qu'il est facile de se reposer sur ses lauriers en pensant aux services qu'on a rendus pour le Seigneur, aux expériences qu'on a vécues dans une vie antérieure, Beaucoup de chrétiens ne progressent plus parce qu'ils restent figés avec nostalgie sur des choses du passé. Et c'est pourquoi Paul dit ici, oubliez, oubliez ce qui est derrière, peu importe ce que vous avez vécu avec le Seigneur dans le passé, ce qui compte, c'est où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez, comme c'est étonnant de la part de Paul, de dire une chose pareille? Je veux dire, Paul, s'il y a bien une personne qui aurait pu s'attarder sur ses trophées du passé, c'est bien Paul, non? Pensez à sa conversion. Peut-on imaginer donc une conversion plus dramatique que la sienne? Alors qu'il était en route vers Damas pour emprisonner, même tuer des chrétiens, Jésus s'est révélé à lui dans une lumière aveuglante et tac, en un instant, il est passé de Saul, le persécuteur de l'Église, à Paul, l'apôtre de Jésus-Christ. Une conversion dramatique. Vous pensez encore à ses expériences avec le Seigneur. En 2 Corinthiens, Paul dit qu'il a vécu des temps de communion avec Christ si intenses que c'était comme s'il avait été enlevé au paradis. Vous pensez encore à tous les services accomplis, les dizaines d'églises implantées, toutes les prédications prêchées, toutes les lettres rédigées. À ce moment de sa vie, Paul avait déjà écrit à peu près un quart du Nouveau Testament. Si quelqu'un aurait eu des raisons de se reposer sur ses lauriers, c'était bien lui. Pourtant, Paul ne se replongeait pas sans cesse dans ses accomplissements du passé. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, et chaque jour un peu plus, il se rapproche du but, qu'il grandisse dans sa connaissance de Jésus. Et c'est pourquoi, écoutez bien, Paul a choisi d'oublier. Je dis bien qu'il a choisi d'oublier, parce que oublier au sens où Paul l'entend ici, ce n'est pas une perte passive de la mémoire, mais c'est une discipline active de notre esprit par laquelle nous choisissons résolument de ne pas nous y attarder. Nous choisissons de ne pas nous attarder sur les choses du passé. Et c'est vraiment ce que Paul dit. Ne regardez pas en arrière, d'une part. Et puis Paul ajoute, « Mais portez-vous vers ce qui est devant. » Par ces mots, Paul nous met en garde contre un autre danger. Lequel ? C'est que si certains chrétiens ne progressent plus parce qu'ils sont bloqués sur le passé, d'autres ne progressent plus parce qu'ils sont satisfaits du présent. Je connais beaucoup de chrétiens comme ça. Ce sont des chrétiens qui ont très bien compris une partie de ce que Paul dit ici, à savoir que la perfection, nous ne l'atteindrons pas ici-bas. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si Paul était bien conscient de son imperfection, il ne s'en satisfaisait pas, mais il cherchait à progresser avec l'aide du Seigneur. Mais malheureusement, j'en connais beaucoup qui savent être imparfaits, mais qui semblent s'en satisfaire pleinement. J'avoue que ça peut être mon cas, par moments. Et c'est un problème, pourquoi ? Parce que si l'on n'avance pas dans la vie chrétienne, on fait quoi ? On recule. Écoutez ce qu'en dit le théologien John Owen. La communion avec Christ, dit-il, est progressive et non instantanée. Aucun croyant n'atteint ici-bas une mesure telle qu'il n'ait plus à grandir. Or, celui qui cesse d'avancer dans la connaissance de Christ recule nécessairement, car il n'existe pas d'état stationnaire dans la vie spirituelle. Nous sommes soit en train de nous approcher du but, soit en train de nous en éloigner. Ainsi, toute la vie chrétienne, dit-il, est une poursuite continuelle de Christ, une course dans laquelle l'âme est appelée à presser toujours plus avant, jusqu'à ce que la foi soit changée en vision et que la course soit changée en repos éternel. Voilà donc la première chose qu'on apprend ici, okay ? C'est que la vie chrétienne, c'est une course. Et que de la même manière qu'une course n'est jamais terminée tant que vous n'avez pas passé la ligne d'arrivée, à aucun moment dans cette vie, vous ne pouvez penser que vous soyez en quelque sorte arrivé dans la vie chrétienne. Mais au contraire, nous sommes appelés à presser toujours plus avant. Alors comment faire ? Comment rester dans la course, deuxièmement ? Dans les versets 17 et 19, regardez, Paul explique que notre progression, au contraire notre régression dans la vie chrétienne, dépend en grande partie des personnes que nous fréquentons. Ça dépend beaucoup des personnes dont nous nous entourons, des modèles que nous suivons. Dans ces versets, en effet, Paul établit un contraste entre deux groupes de gens. Il y a d'un côté, regardez, verset 17, « ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez en nous ». Et Paul dit aux Philippiens de porter leur regard sur eux et d'imiter leur modèle. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ, verset 18. Et Paul ici ne parle pas de personnes extérieures à l'Église. Il parle bien de personnes dans l'Église et il avertit les Philippiens de ne pas suivre leur modèle. Pour rester dans l'image de la course, ce que Paul nous dit, c'est que nous devons courir le bon lièvre. Est-ce que vous savez ce qu'est un lièvre en athlétisme ? Si vous regardez une course lors des championnats du monde, par exemple, vous verrez que certains champions payent un autre coureur pour être leur lièvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au signal du départ, cet autre coureur part à plein gaz, il fait la course en tête, et le champion, que fait-il ? Eh bien, il n'a qu'à lui emboîter le pas, il n'a qu'à garder les yeux fixés sur lui et se laisser tirer en avant. Et ce que vous observez, vous regarderez, c'est que quelques kilomètres avant la ligne d'arrivée, le lièvre s'arrête sur le bord de la piste, il a rempli son contrat, et il laisse le champion finir seul la course. Eh bien, dit Paul, vous, de même, vous avez besoin d'un lièvre, même de plusieurs. Vous avez besoin de modèles à suivre pour presser toujours plus avant. Vous avez besoin de personnes matures dans la foi qui, par leur bon exemple, vont vous tirer en avant. Et à l'inverse, vous devez vous garder de mauvais exemples qui vous tirent en arrière. Alors, voyons ces deux choses. D'abord, Paul dit au verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Au premier abord, ça peut sembler arrogant de la part de Paul de dire à ses chrétiens, « Soyez mes imitateurs, suivez mon modèle. » Pour qui se prend-il ? Peut-on penser, peut-être. Mais plusieurs détails ici indiquent que ce n'est pas une marque d'arrogance de la part de Paul, mais plutôt une marque de prévenance de sa part à l'égard des Philippiens que de leur dire de l'imiter. Déjà au verset 12, Paul disait qu'il était loin d'avoir atteint la perfection. Paul sait qu'il n'est pas parfait et que donc il n'est pas un modèle à suivre en tout. C'est ce qui fait qu'ailleurs, il précise bien que son exemple doit être suivi que dans la mesure où il suit lui-même l'exemple de Christ. En 1 Corinthiens 11, par exemple, Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Autrement dit, dans la mesure où ma vie s'accorde à celle de Christ, imitez-moi, mais ne m'imitez pas en tout. Et l'autre détail qui prouve qu'il n'y a aucune trace d'arrogance chez Paul, ici, c'est qu'il ne dit pas aux Philippiens de l'imiter lui seul. Vous avez remarqué ? Mais il leur dit d'imiter tous ceux qui se conduisent suivant le modèle de Christ. Rien que dans cette lettre, Paul a pris deux exemples, c'est au chapitre précédent, ceux de Timothée et d'Épaphrodite, et il les a présentés, ces deux hommes, comme des modèles à imiter. En bref, Paul ne cherche pas à se mettre en avant. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on prenne conscience, vous et moi, du besoin que nous avons d'avoir des modèles, des mentors, des chrétiens matures qui, par leur exemple, vont nous encourager à aller de l'avant. Je suis en train de lire Le Voyage du Pèlerin avec mon fils en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez, sans doute une bonne partie d'entre vous connaissez peut-être cette histoire écrite par John Bunyan alors qu'il était en prison. Elle raconte le voyage de ce chrétien, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui part de la cité de la destruction pour se rendre dans la cité céleste. C'est une allégorie de la vie chrétienne. Et savez-vous ce qui m'a frappé en relisant cette histoire ? Je la connais depuis longtemps, je l'ai relue avec mon fils, et savez-vous ce qui m'a frappé ? C'est que toutes les fois où le chrétien recule, à chaque fois qu'il fait fausse route, toutes les fois où il est tenté d'abandonner la course, à chaque fois, c'est parce qu'il est seul. À l'inverse, lorsqu'il est accompagné, lorsqu'il emboîte le pas de chrétiens fidèles qui sont passés avant lui, c'est là qu'il se met à avancer. Et savez-vous pourquoi c'est logique que ce soit le cas ? C'est parce que nous apprenons beaucoup plus par imitation que par instruction. On a beau être enseigné à persévérer, et c'est important de le faire, d'être enseigné, de s'exhorter à la persévérance, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, un enseignement a toujours beaucoup moins d'impact qu'un exemple de persévérance. Comme l'a dit un chrétien célèbre, l'exemple est la rhétorique la plus puissante. L'exemple est la rhétorique la plus puissante. Nous avons besoin de modèles si nous voulons rester dans la course. Alors, où pouvons-nous trouver de tels modèles ? Le premier endroit où chercher, c'est dans la Bible. La Bible nous raconte la vie de plein de croyants qui, bien qu'imparfaits, peuvent nous servir de modèles. D'Abraham à Paul, justement, en passant par Moïse, David, Pierre et tant d'autres, sans même parler de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible regorge d'histoires dont il nous est dit qu'elles ont été écrites pour nous servir d'exemple, 1 Corinthiens 10, pour que nous imitions leur foi, Hébreux 11. Et puis un autre endroit où nous pouvons chercher des modèles, c'est dans l'histoire de l'Église. Cela vous arrive-t-il de lire des biographies ? Je pense qu'il n'y a rien qui m'ait davantage encouragé dans ma vie chrétienne ces dernières années que de lire les biographies de chrétiens du passé. Jonathan Edwards, Dietrich Bonhoeffer, George Müller, Charles Spurgeon. Pourquoi sont-ils si encourageants ? Parce que malgré tous leurs défauts, et croyez-moi, ces hommes avaient leurs défauts, leur vie est un exemple de consécration qui pousse à vouloir progresser et à avancer sur le chemin de la foi. Mais l'endroit par excellence où chercher des modèles, selon Paul ici, c'est où ? C'est dans l'Église, et l'Église locale. Et c'est pourquoi, si vous êtes jeune dans la foi ici ce matin, j'aimerais vous poser la question suivante. Y a-t-il des personnes dans l'Église qui vous servent de modèle ou de mentor ? Est-ce que vous restez juste avec ceux qui ont votre âge ? Ou est-ce que vous cherchez d'aller vers ceux qui sont peut-être plus âgés et qui vont vous stimuler, vous encourager ? Et à vous qui êtes plus âgés, j'ai aussi une question. Quel exemple donnez-vous à ceux qui sont plus jeunes dans la foi ? Avez-vous cessé de courir ? Ou est-ce que vous leur donnez un exemple de persévérance dans la foi ? Vous voyez, la course dans la vie chrétienne a ceci de particulier que ce n'est pas un sport individuel. C'est un sport d'équipe. Et nous avons besoin de nous encourager par l'exemple à persévérer. Dans tout ce que vous faites, les regards des autres sont sur vous. Dans chaque choix, les priorités que vous avez, vous allez soit les encourager à aller plus en avant vers Christ, ou les décourager. C'est un sport d'équipe. On est ensemble là-dedans. Pourquoi est-ce si important de s'encourager par l'exemple à persévérer ? Parce que Paul nous dit, regardez, que si les bons exemples sont rares, les mauvais exemples, eux, ne manquent pas. Et le danger est bien réel de se laisser dérouter par des gens qui se disent chrétiens, mais dont la vie démontre qu'il n'en est rien. Regardez les versets 18 et 19. « En effet, dit Paul, beaucoup, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. » Les larmes de Paul, qui pleurent ici en pensant à ces gens, nous permettent de penser qu'il les connaissait. Peut-être ces gens avaient-ils fréquenté l'église de Philippe. Ils étaient en tout cas en contact suffisamment rapproché avec l'église pour que Paul juge nécessaire d'alerter les Philippiens. Quel était le danger ? C'était que ces gens prétendaient être chrétiens apparemment, mais qu'ils avaient depuis longtemps abandonné la course. Regardez, au lieu de penser aux réalités spirituelles, ils ne pensaient qu'aux réalités de ce monde. Leur but dans la vie n'était pas de connaître Christ, mais c'était de maximiser leur plaisir. Comme il est dit ici, ils avaient pour Dieu leur ventre, ce qui revient à dire que la quête du confort et du bien-être dans cette vie avait fini par remplacer la poursuite de Christ. Si leur vie était donc bien comparable à une course, eux aussi, c'était une course effrénée après les plaisirs de cette vie. Et Paul dit qu'ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup à se conduire ainsi. Et je pourrais ajouter encore aujourd'hui. Dans le voyage du pèlerin, j'y reviens encore une fois, désolé. Il y a une autre chose qui m'a frappé dans ma lecture avec mon fils ces derniers mois. Vous savez quoi ? C'est l'immense galerie de portraits qui décrit des gens exactement comme ça. C'est-à-dire des gens qui parlent le langage de la foi, mais dont la vie et les conseils trahissent l'Évangile. Il y a Monsieur Sagesse selon le monde, par exemple. Voilà, Monsieur Sagesse selon le monde, c'est un homme respectable, religieux. Mais que dit-il à chrétien ? Il lui dit en gros, ça n'a pas besoin d'être aussi difficile la vie chrétienne. Ça n'a pas besoin d'être aussi difficile. Dieu voudrait-il vraiment que tu aies à souffrir comme ça ? Non, certainement pas. Si le chemin est si difficile, c'est probablement que tu t'es trompé de chemin. Il y a aussi Monsieur Volage. Monsieur Volage, voilà un autre. Un homme qui commence le chemin avec enthousiasme, mais dès qu'il rencontre les premières difficultés, il abandonne et il dit à Chrétien, « Si c'est ça le chemin, Je préfère rentrer. Pourquoi s'infliger tant de peine? La vie est si facile, elle est tellement plus belle dans la cité de la destruction. Et je pourrais multiplier les exemples. Il y a toute une galerie de portraits de gens comme ça qui parlent le langage de la foi. Ça semble très spirituel. Mais leur vie et leurs conseils trahissent l'évangile. Qu'est-ce que Bunyan nous dit par ses portraits? C'est que le danger, vous voyez, par rapport à la persévérance, le danger ne vient pas tant de l'extérieur de l'Église, mais que le plus souvent, il vient de ceux qui se disent chrétiens, mais dont la vie démontre qu'il n'en est rien, et qui vont nous décourager, qui vont nous détourner du chemin. Et c'est pourquoi Paul nous dit « Choisissez avec soin votre compagnie. Choisissez bien les gens dont vous vous entourez. Et portez les regards sur ceux qui vont vous tirer en avant, qui vont vous aider à rester dans la course. » Mais Paul ne se contente pas de nous dire que la vie est une course et comment rester dans la course. Il termine en nous expliquant pourquoi rester dans la course. Troisièmement, pourquoi cela vaut-il la peine de persévérer dans la foi? Pour rester dans l'image de la course, la réponse que Paul donne dans les versets 20 à 21, c'est que la ligne d'arrivée est proche et que le prix en vaut la peine. Regardez les versets 20 à 21. « Quant à nous, dit-il, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Avez-vous déjà remarqué comme la vue de la ligne d'arrivée donne des ailes aux coureurs? Je suis tombé sur un meeting d'athlétisme récemment, et il y avait la course du 5000 mètres en cours. C'est plutôt une course d'endurance, hein, le 5000 mètres, c'est 12 tours de stade. Et quand je regardais, j'avais l'impression que les coureurs étaient à plein régime. En tout cas, de mon point de vue, ils étaient déjà à fond en train de courir. Mais savez-vous ce qui m'a frappé? C'est qu'une fois qu'ils sont arrivés dans la dernière ligne droite, ils ont encore accéléré. Je ne pensais pas qu'ils en avaient encore sous le pied, comme on dit, mais ils ont eu comme un second souffle. Voir la ligne d'arrivée si proche leur a donné des ailes et ils se sont mis à accélérer. Or, c'est ce que Paul fait ici. Pour nous encourager à rester dans la course, il fait miroiter devant nous la ligne d'arrivée. C'est comme s'il disait « Allez, persévérez, vous y êtes presque, vous êtes bientôt arrivés et pensez au prix qui vous attend. » Il y a trois choses en particulier que Paul met ici en avant brièvement. La première chose qui nous attend, dit-il, c'est que nous aurons un corps glorieux. Un corps glorieux, puisqu'il dit que quand Christ paraîtra, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Peut-on imaginer de plus belles perspectives que celle-là, en particulier pour ceux parmi nous qui sentent le poids des années? Mais ce n'est pas juste pour les personnes âgées que c'est une promesse magnifique, en réalité, pour ceux qui sont jeunes aussi. Pourquoi? Mais parce que dès l'instant où nous sommes nés, notre vie prend la direction de la tombe. Et plus passent les années, plus nous nous rendons compte de ça. La fatigue, la dépression, la maladie, les douleurs, l'insomnie. Tant de choses qui nous découragent si facilement et nous poussent à vouloir baisser les bras. Nous souffrons tous dans cette vie, dans un corps de misère. Mais Paul dit, il n'en sera pas toujours ainsi. Et comme le dit C.S. Lewis, si nous pouvions voir aujourd'hui notre futur moi, nous serions tentés de l'adorer. Pourquoi? Mais parce que Christ va nous ressusciter avec un corps semblable au sien, incorruptible, glorieux, plein de force. Et il n'y aura alors plus jamais ni souffrance, ni douleur, ni pleurs, ni cris, ni larmes. Mais en plus d'un corps glorieux, Paul nous dit que ce qui nous attend, c'est une cité solide. Une cité solide puisqu'il dit que notre droit de cité est dans le ciel. Qu'est-ce que cela signifie, si ce n'est que nous avons une patrie et qu'un jour, bientôt, nous rentrerons à la maison? Par ces mots, Paul nous rappelle que nous sommes des pèlerins sur cette terre, justement des vagabonds, toujours en chemin, jamais arrivés à destination. Mais Paul dit, il n'en sera pas toujours ainsi. Bientôt, la cité céleste descendra sur terre et nous serons enfin à la maison. En Hébreux 11, Paul nous dit que cette cité, Dieu en est l'architecte et le constructeur, et qu'elle a de solides fondations. Elle est solide, elle ne passera pas. Après avoir couru toute notre vie ainsi, nous pourrons enfin nous reposer. Nous serons enfin arrivés. Un corps glorieux, une cité solide, mais la plus belle promesse qui nous est faite ici, c'est que bientôt nous verrons Christ lui-même. Puisqu'il nous est dit que nous attendons aussi, et j'ai envie de dire surtout, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous qu'un jour, bientôt, vous verrez votre Sauveur face à face? Savez-vous qu'un jour, bientôt, vous verrez Jésus? Et savez-vous qu'il n'y a rien de meilleur? C'est ce que Paul disait un peu plus tôt dans la lettre lorsqu'il disait « Car pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain. » Et ce qu'il entendait par là, Paul l'expliquait plus loin en disant « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ parce que c'est de beaucoup le meilleur. J'aimerais pouvoir partir, dit Paul, parce que c'est tellement de loin le meilleur d'être avec Jésus. » Eh bien, Paul dit « Un jour, ce sera le cas. Nous serons avec Jésus et Jésus sera là. » Comme le dit la Bible dans un autre endroit, nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà ce qui nous attend donc. Et Paul dit, voilà ce qui doit vous encourager à persévérer. Parfois, si vous êtes comme moi, je trouve avec les aléas de la vie, avec notre quotidien trop rempli, on perd de vue la ligne d'arrivée, non? Avec quel résultat? Mais c'est que nous baissons les bras, on se laisse aller. Nous ne faisons plus d'efforts pour connaître Jésus davantage, on n'a plus ce désir brûlant d'être transformé à son image parce qu'on a oublié que bientôt nous verrons Jésus. Et c'est pourquoi Paul nous dit « Rappelez-vous que la course est bientôt terminée et persévérez. » Chapitre 4, verset 1, « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Et j'aimerais moi aussi conclure ce message par un appel. Un appel à reconsidérer vos priorités cette année. Je vous demandais en introduction quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises au début du mois de janvier. Sans doute que vous avez plein de priorités, plein de bonnes priorités pour cette année. Mais puis-je vous suggérer qu'il n'y a réellement qu'une seule chose qui compte vraiment? Dans toutes ces activités, et croyez-moi, Paul était actif, mais il pouvait dire « je fais une chose, une seule ». Peu importe ce qu'il faisait, dans toutes ces activités, Paul avait résolu de ne faire qu'une seule chose. Il n'avait qu'une seule priorité. Connaître Christ. Et vous, quelle sera votre priorité cette année? Allez-vous courir après les plaisirs de cette vie ou allez-vous courir après Jésus-Christ? Vous satisferez-vous de là où vous en êtes arrivé ou chercherez-vous encore à progresser? Qu'est-ce qui occupera vos pensées? Les réalités de ce monde ou la pensée de l'éternité? Vous savez ce qui peut vous aider à chercher Christ, à le poursuivre? C'est de vous rappeler que lui vous a cherché, lui vous a poursuivi. Dans la lettre aux Hébreux, Paul nous dit que Jésus aussi est entré dans la course. Vous le saviez ça? Jésus est entré dans la course, la même que la nôtre, dans cette vie, il est entré dans cette course. Jésus a quitté la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte, qui a de solides fondations. Jésus a quitté ça pour prendre un corps de misère. Comme le nôtre. Jésus a choisi de participer à notre vie sur cette terre et sa course l'a mené jusqu'à la croix où il est mort pour son peuple. Et savez-vous ce qui l'a encouragé à rester dans la course, sachant qu'elle s'achèverait sur le bois de la croix? Paul nous dit en Hébreux 12 que ce qu'il a fait, Jésus l'a fait en vue de la joie qui lui était proposée. C'est en vue de la joie qui lui était proposée, qu'il a souffert la croix. Et réalisez-vous alors ce que ça signifie pour vous et pour moi. Réfléchissez. Quelle est cette joie que Jésus n'avait pas au ciel et qui l'a poussé à venir ici-bas? Quelle est la seule chose que Jésus n'avait pas? La seule chose que Jésus n'avait pas avant de venir sur terre, c'était vous. C'était nous. C'était moi, c'était toi, c'était son peuple. Et ce que ça signifie, c'est que si tu es à lui aujourd'hui, tu peux savoir que dans chacune de ses journées, quand il était sur terre, Jésus te cherchait. Et maintenant, il te dit, dans tes journées, cherche-moi. Tu peux savoir que dans toutes ces souffrances, tant de souffrances vécues sur la terre, Jésus avait le regard sur toi, il est venu te poursuivre, te chercher toi. Et maintenant, il te dit, avance, avance en gardant les regards sur moi. Jésus a tout fait pour te saisir, pour s'emparer de toi. Et maintenant, il te dit, allez à toi de t'emparer de moi. Alors que le Seigneur nous aide dans cette nouvelle année à ne jamais penser que nous serions arrivés, mais à persévérer pour qu'on puisse dire un jour, avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. Je vous invite à la prière.